Merci d'écouter RFI, 19h30 en temps universel, il est 20h30 ici à Paris.
Arthur Ponchelet.
À la une de l'actualité africaine ce soir, 5 ans de prison ferme pour avoir détourné une saisie record de cocaïne en Côte d'Ivoire. 3 anciens officiers du port autonome d'Abidjan ont été condamnés aujourd'hui. Ils étaient pourtant chargés de lutter contre le trafic de drogue. Il a un objectif, faire revenir les pays de l'AES dans le giron de la CEDEAO. Le président du Ghana est attendu dimanche à Niamey. Il doit convaincre le Niger, le Mali et le Burkina de ne pas quitter définitivement l'organisation sous-régionale. Au sommaire également, on est en Afrique du Sud où les États-Unis se retirent d'un accord qui vise à sortir du charbon. Et puis en Zambie, où l'on parle aussi d'extraction minière, cette fois du plomb. Et vous l'entendrez, la société civile s'inquiète des conséquences pour la santé des enfants. Ils étaient chargés de lutter contre la drogue et aujourd'hui, ils ont écopé de 50 prisons pour trafic de drogue. En Côte d'Ivoire, clap de fin aujourd'hui du procès de 3 officiers du port autonome d'Abidjan, dont l'ancien patron de la cellule anti-drogue. Tous les 3 sont accusés d'avoir détourné une partie d'une saisie record de cocaïne. Retour sur cette affaire avec Abdelaziz Diallo.
Tout commence en juillet 2022 avec l'arrestation d'un petit dealer de drogue à Abidjan. Chez lui, les enquêteurs découvrent 37 grammes de cocaïne. Mais ce qui aurait pu être un simple fait divers prend une toute autre tournure. L'homme se présente comme un informateur de la cellule antidrogue du port et accuse plusieurs gendarmes de détourner des saisies. Mieux encore, il affirme que la drogue retrouvée chez lui provient d'une cargaison interceptée quelques semaines plus tôt. Ces révélations déclenchent une enquête qui remonte jusqu'au commandant Armand Agnès Ambonon, chef de cette unité spécialisée. Après plusieurs mois d'investigation et un procès à huis clos, le verdict tombe. L'ex-commandant de la cellule antidrogue du port autonome d'Abidjan et 2 autres officiers écopent de 5 ans de prison. Le tribunal correctionnel leur reproche d'avoir soustrait une partie d'une saisie colossale, 1,56 tonnes de cocaïne brute, une marchandise estimée à 25 milliards de francs CFA. En 2022, plus de 2 tonnes de cocaïne avaient été saisies à Abidjan et San Pedro. Une trentaine de suspects avaient été interpellés, parmi eux, le chef de la police de San Pedro, condamné depuis à 10 ans de prison. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Et c'est à Abidjan aussi que le président du Ghana était en visite hier. John Dramani Mahama a rencontré son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Entre les deux chefs d'État, il a notamment été question d'un bras de fer qui dure depuis plusieurs mois. Celui entre la CEDEAO et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Ensemble, ils ont appelé le Mali, le Burkina et le Niger à rester dans l'organisation ouest-africaine. Et pour cela, Guillaume Thibault, Alassane Ouattara compte sur son homologue ghanéen.
Nous vous faisons confiance, monsieur le président, a lancé Alassane Ouattara ce mercredi. Visiblement convaincu par la diplomatie mise en place par John Dramani Mahama depuis sa réélection. Le chef de l'État ghanéen, qui a pointé les limites des méthodes de la CEDEAO, notamment l'application des sanctions économiques, joue, depuis son retour au pouvoir, la carte des relations respectueuses et apaisées. En invitant notamment Assimi Goïta, Abdourahman Tiani et Ibrahim Traoré à son investiture le 7 janvier. Les 2 premiers se sont fait représenter, le voisin Burkinabé a lui été reçu en audience par John Dramani Mahama qui a déclaré « La colonisation nous a divisés, sinon nous ne serions qu'un seul peuple. Nous sommes au début d'une nouvelle relation, nous devons tout faire pour l'intégration. » Dans la foulée, le chef de l'État a nommé un envoyé spécial chargé des relations avec l'AES. Début février, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Samuel Akudzeto Ablakwa, a déclaré « Le président Mahama mène la charge pour garantir que le Mali, le Niger et le Burkina Faso reviennent dans le giron de la CEDEAO. Je ne doute pas que, compte tenu de son expérience diplomatique, il réussira. » Le ministre qui a aussi précisé que des visites diplomatiques de John Dramani Mahama sont prévues au sein des pays de l'AES dans les prochaines semaines.
Guillaume Thibault et à Niamey, justement, les militaires au pouvoir viennent d'annoncer que le président du Ghana, John Dramani Mahama, est attendu ce dimanche dans la capitale. En bref, au Mali, le procès de Seydina Touré, prévu aujourd'hui, a été renvoyé à lundi prochain. Cet opposant, membre du parti alternatif pour le Mali, est emprisonné depuis le 2 janvier. Il est poursuivi notamment pour atteinte au crédit de l'État après des messages publiés sur les réseaux sociaux, messages dans lesquels lequel il qualifiait les autorités militaires putschistes de l'AES de junte et appelait, je cite, à combattre le régime anarchique d'Assimi Goïta pour sauver l'honneur de l'islam, fin de citation de sources judiciaires. Son procès a été renvoyé au 10 mars prochain pour convocation de la direction générale du contentieux de l'État, absente ce matin à l'audience. L'un de nos correspondants au Tchad, Olivier Monodji, est toujours détenu ce soir à la direction de la police judiciaire. C'est dans le quartier de Moursal, à N'Djamena. À cette heure, il n'a toujours pas été formellement entendu et aucun motif ne lui a été présenté pour justifier cette situation. Hier à la mi-journée, Olivier Monodji a dû suivre des policiers venus dans les locaux du journal Le Pays, journal dont il est le directeur de la publication, pour lui délivrer un mandat d'amener signé par le procureur de la République. Une situation qui inquiète son avocat, maître Alata Amos, qui estime que la procédure viole le code de procédure pénale et qu'Olivier Monodji doit être libéré.
Ce que nous demandons au parquet, précisément au procureur de la République, c'est mettre en liberté notre client parce que, en principe, il a été appréhendé par un mandat d'amener émis par le procureur de la République lui-même. Donc, jusqu'à 30 heures après, si on ne lui notifie aucune charge, ça devient de la détention illégale. Parce que d'abord, il n'a jamais été convoqué. Pourtant, le code de procédure pénale exige qu'on émette d'abord de convocation. Et si l'auteur convoqué ne répond pas à la convocation, il faut en émettre jusqu'à 3 avant qu'on vienne le prendre manu militari. Mais là, il n'a jamais été convoqué. Ils n'ont pas rapporté la preuve d'une convocation. On débarque dans son bureau, on le prend comme un vulgaire type et on ne lui notifie aucune charge. Nous avons fait les pieds de grue du parquet d'instance jusqu'au parquet général et il y a comme une sorte d'omerta autour de sa détention. Et là, nous trouvons que c'est une détention illégale qui n'obéit à aucune procédure. Et ce que nous réclamons immédiatement, c'est sa mise en liberté.
Propos recueillis par François Mazet. Notez que dans un communiqué, l'Union des journalistes de la presse libre africaine dénonce la détention d'Olivier Monodji ainsi que toutes les formes d'intimidation à l'encontre des journalistes dans l'exercice de leur métier. En bref, le Soudan accuse les Émirats Arabes Unis de complicité de génocide et dépose une requête devant la Cour internationale de justice. Khartoum pointe du doigt le soutien émirien aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Faux, rétorque Abu Dhabi qui a immédiatement dénoncé un coup de communication. C'est une nouvelle décision qui acte le désengagement des États-Unis sur le continent. Cet après-midi, Washington annonce quitter le partenariat pour une transition énergétique juste avec l'Afrique du Sud. Cet accord international vise à financer la sortie du charbon pour Pretoria. Washington avait promis d'y investir 1 milliard de dollars. L'Afrique du Sud figure parmi les 12 plus gros émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre et tire plus des 3/4 de son électricité du charbon. En Zambie, ce n'est pas l'extraction de charbon, mais celle de plomb qui inquiète la société civile. Dans un rapport, Human Rights Watch se penche sur la situation dans la ville de Kabwe, c'est dans le centre du pays. Juliette Pietraszewski, l'ONG, s'inquiète de la pollution qui touche notamment les enfants.
À Kabwe, 95% des enfants vivant dans les zones les plus polluées de la ville présenteraient un niveau de plomb très élevé dans le sang. En cause, des millions de tonnes de déchets de plomb, toujours pas recouverts, 30 ans après la fermeture de la mine. Des extractions sauvages aussi. Selon Human Rights Watch, des mineurs artisanaux ont été autorisés à travailler sur plusieurs concessions à l'abandon. Entre 2022 et 2024, plusieurs entreprises ont mené ou facilité des activités parmi les déchets contaminés dans la zone de l'ancienne mine, précise l'ONG. Des entreprises qui ont aussi placé les déchets dans des tas à ciel ouvert dans divers quartiers. Les autorités doivent réagir, alerte Juliane Kippenberg, directrice adjointe des droits de l'enfant à Human Rights Watch.
Nous appelons d'assurer que la loi de mine de l'environnement soit vraiment appliquée. Il faudrait suspendre des opérations qui sont dangereuses. Il faut vraiment un programme de nettoyage complet des déchets. Le nettoyage en tant que tel de la région de la mine, mais aussi les maisons.
L'ONG appelle aussi la Zambie à mettre en place un programme de santé pour assurer l'accès aux traitements médicaux aux enfants comme aux adultes.
Juliette Pietraszewski du service environnement de RFI. L'extraction minière dénoncée aujourd'hui aussi au Zimbabwe. L'autorité de gestion des parcs nationaux alerte sur les conséquences l'annonce d'un projet de mine de charbon dans le parc Wangé, le plus célèbre du pays. Cette réserve naturelle qui attire chaque année des milliers de touristes abrite des rhinocéros noirs, espèce en danger d'extinction, mais aussi des éléphants. Mi-février, une entreprise chinoise a demandé à prospecter pour du charbon dans cette zone, d'après le journal officiel. Une menace importante pour les animaux, estime l'autorité de gestion des parcs nationaux. 19h40 en temps universel. Tout de suite, c'est grand reportage sur RFI.